Bien, bonjour. Permettez-moi d'abord de vous féliciter et vous remercier de votre héroïsme. Je pensais qu'il n'y aurait personne aujourd'hui avec un tel temps. Et je voulais encore une fois vous prier de m'excuser pour le cours de la semaine dernière qui n'a pas eu lieu, comme je vous l'ai dit, puisque je suis allé à Yale participer à une conférence sur les Chakkyoka, qui était très, très intéressante, très enrichissante. J'espère pouvoir peut-être vous en parler lors du dernier cours. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, ce sera un cours assez chargé, et je vais commencer tout de suite, entrer dans le vif du sujet, qui est plutôt au milieu, puisque c'est la continuation du cours de la dernière fois, de la fin février. Nous avons vu au dernier cours comment les motifs et les thèmes les plus ouvertement bouddhiques se retrouvent au sein des poèmes appartenant à la rubrique des dieux. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'enquête sur cette rubrique pour l'étendre ensuite très brièvement à la rubrique bouddhisme, Chakkyoka, afin de trouver des points de comparaison qui devraient nous éclairer. Nous avons terminé la dernière fois sur un poème de Jien consacré à la divinité de Hiyoshi. C'était le premier de trois poèmes sur le même sanctuaire qui, vous le savez à présent, est celui du dieu de la montagne, Sanno, protecteur du grand monastère Tendai du mont Hiei, le Enryaku-ji. Le poème qui suit, celui de Jien, est aussi l'œuvre d'un moine du nom de Shoken, ou Seiken. Prononcez Seiken. Vous savez qu'à l'époque, le Tendai se piquait de prononciation Kan, donc Seiken devait être probablement la prononciation imposée à l'époque, mais l'inertie aidant, nous sommes revenus à la prononciation Gon, donc Shoken. Si vous voulez faire très purisme Tendai, vous prononcez Seiken, sinon Shoken. Ce Shoken, dont c'est, semble-t-il, la seule œuvre transmise dans les anthologies. Il appartenait à la branche issue de l'empereur du Xe siècle Murakami, les Murakami Genji. Il eut le grade de pont de la loi, comme vous le voyez ici, Hokkyo, dans les années 1181-1189 au monastère du Mont Hiei. Et l'on ne sera donc pas étonné de lire ce poème de lui, qui, ainsi que le dit la notice, a été composé en pensant à la base originelle Honji du Daigu de Hiyoshi, du grand sanctuaire de Hiyoshi. Je vous le lis donc d'abord en japonais. Itsutonaku, washi no takane ni sumutsuki no hikari o yadosu shiga no karasaki. Itsutonaku, washi no takane ni sumutsuki no hikari o yadosu shiga no karasaki. Je traduis ainsi, à tout jamais. Au mont des aigles demeurant la lune, dont Kalasaki en Shiga, la lumière héberge. On pourrait peut-être dire, à tout jamais au mont des aigles demeurant, la lune dont Kalasaki en Shiga héberge la lumière. Ce sera peut-être plus compréhensible, mais j'essaye de suivre l'ordre du japonais autant qu'il est possible. Yados, hébergé, abrité. La tonalité bouddhique du poème est bien sûr évidente. Il suffit d'en lire le second vers pour le comprendre. Washino Takane, Washino Yama, donc c'est le mont des aigles, c'est-à-dire le pic du vautour du Sutra du Lotus. En sanskrit, le pic du vautour, en sino-japonais, le mont des aigles, le mont sacré des aigles. Mais cette tonalité bouddhique ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez sans doute que j'ai déjà attiré l'attention sur le double sens du verbe smu, signifiant à la fois être pur, être limpide et demeurer, dont les poètes ont joué dans le toponyme de Sumiyoshi, par exemple. Ce verbe adjectif convient très bien à la lune, en son sens de pur, comme nous l'avons déjà vu dans les poèmes de Sanesada et de Shunhe. Est-ce bien la même pureté que la lune d'autrefois, etc. Les deux faisant déjà clairement allusion aux notions jumelles de Honji Suijaku et de Wako Dōjin, donc la base originelle et les traces descendues, et Wako Dōjin, adoucir sa lumière pour la mêler à la poussière. Je ne reviendrai pas non plus sur la lune comme métaphore du Bouddha, qui est l'une des métaphores les plus persistantes dans la poésie à thème bouddhique, dont ces deux mêmes poèmes offrent un exemple. Mais il faut attirer ici l'attention sur la façon dont les vers que nous avons sous les yeux s'enchaînent. Le premier, Itsutonaku, à tout jamais, constamment, est ici synonyme de Tsuneni. Il se rapporte à Sumu, et le syntagme Tsuneni-Sumu, demeurant constamment, dont Itsutonaku Sumu est synonyme, rappelle immédiatement au lecteur averti, et tous les lecteurs et lectrices de l'époque de Heian étaient avertis, le passage fondamental du Sutra du Lotus dans le décisif chapitre 16, Longévité, Juryōhon, n'est-ce pas, où le Bouddha révèle que son passage en Nirvana remonte à un passé immensément lointain, et que l'extinction telle que la connaissent les fidèles auditeurs de Shakyamuni, l'iconographie traditionnelle du Nirvana donc, n'est en réalité qu'un expédient salvifique qui sert à redonner du courage aux pratiquants. Vous savez, c'est le sens de la parabole de la cité fantasmagorique. C'est une montrance qui ne repose que sur le souci d'aider les êtres. Aucun être de notre monde n'a jamais vu le vrai Nirvana historique du Bouddha, car il n'y en avait pas. C'est ce que dit à peu près ce passage ici. Je vous le lis en français. C'est pour sauver les êtres qu'en manière d'expédient, je représente l'extinction. Nehan o genzu arawasu, hoben toshite, hoben ni. Alors qu'en réalité, jitsuni, je ne suis pas passé en disparition, metsudo sezu, et demeure ici en pérennité. Alors c'est ici qui est important. Et demeure ici en pérennité à prêcher la loi. Kokoni sumit. Tsuneni kokoni sumite ho nori otoku, n'est-ce pas, seppos. Je demeure ici constamment, c'est répété. Ware tsuneni kokoni sumu. Mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. Sui gon ni fuken. Chikashi to yedomo mizu, miezu. Ce passage a déjà été souvent évoqué à juste titre, car c'est l'un de ceux qui ont le plus inspiré les poèmes à thème bouddhique. L'adverbe de lieu ici, kokoni, c'est ici exprimé par le démonstratif, mais c'est évidemment ici à prendre en sens en tant qu'adverbe de lieu, est compris comme le pic des vautours, c'est-à-dire le mont des aigles dans la traduction sino-japonaise, et non pas la pagode dans l'espace. Mais ceci ne nous concerne pas dans le cadre de cet exposé. Moi, je ne reviendrai pas sur la narration du Sutra du Lotus à ce sujet. Donnons ici comme illustration poétique de ce passage du Lotus une pièce de Shunze lui-même qui apportera un éclairage contemporain permettant de juger à quel point tout cela était immédiatement compréhensible. Ce poème de Shunze, donc, que j'ai repris dans la grande anthologie du Yakuwa Wakashu. Donc, Tsune ni sumu, washi no miyama no, tsukida ni mo, omoi shire tozo, kumo ga kurekeru. Constamment en demeure, constamment demeurant au mont des aigles, la lune elle-même, pour que vous y songiez, se cache dans les nuées. Pour que vous songiez donc à son existence, pour exciter en quelque sorte la curiosité des êtres, elle se cache, n'est-ce pas? Le syntagme tsunenisumu, demeurant en permanence, évoque donc toujours dans la poésie japonaise ce passage du sutra. En tout cas dans la poésie, dans les shakyoka. Je ne reviens pas ici sur l'intitulé impermanence, mujo, donné par Shunze à ce poème, mujo, impermanence. Vous voyez que ce poème porte comme titre mujo, impermanence, alors qu'il commence par tsunenisumu. J'y reviendrai très brièvement tout à l'heure, mais c'est une sorte d'inversion des valeurs qui est assez fréquente dans la poésie pleinement tendai, pleinement grand véhicule, n'est-ce pas? Donc je ne reviendrai pas là-dessus, c'est intitulé qui est remarquable et offre une impressionnante perspective herméneutique. On voit que Shoken a fait un léger changement de tsunenisumu en itsutonakusumu, mais l'expression reste très reconnaissable. Ce qui fait que nul ne peut ignorer que cette lune qui a tout jamais demeure au mont des aigles est le Bouddha Shakyamuni. La première partie du poème, Kaminoku, donc je reviens brièvement à ce poème, le Kaminoku est donc une paraphrase et une explication du terme base originelle de la notice, Honji. La seconde partie, en conséquence, sera naturellement l'évocation de la trace descendue. Tout le monde comprend sans peine que le verbe héberger la lumière, Hikari o Yadosu, est une paraphrase de l'expression « adoucir la lumière » et concrétise en même temps la personnalisation, si l'on peut dire, ou la divinisation des Bouddhas dans les divinités japonaises. Le dernier vers en précise l'identité grâce aux deux toponymes « Shiga no Karasaki », le promontoire de Karasaki à Otsu, sur le lac Biwa. C'est le lieu d'arrivée de la barque processionnelle lors de la fête du dieu de Hiyoshi, le Sanno Matsuri, la première étape qui mènera au sanctuaire. Le pain de Karasaki est, à l'instar du pain de Sumiyoshi, une métonymie du dieu. Karasaki fait ainsi fonction de Utamakura, donc de toponyme expressif, évoquant Hiyoshi, sa divinité et le lien avec l'objet principal de vénération, le Honzon de l'école Tendai, qu'est le Bouddha Shakyamuni. En fait foi ce poème de Songyen que nous avons vu l'an dernier. donc je vous la dis. Karasaki no Matsu no Kozue ni fune yosete, wa ga Yamamoto ni kamizo kimaseru. Amarrant sa barque au branchage d'un pin à Karasaki, Karasaki no Matsu, n'est-ce pas ? Donc, à Karasaki, attente du futur, au pied de notre mont vient la divinité. Le sanctuaire de Hiyoshi est situé au pied du mont Hiye. Il fait actuellement partie de la municipalité de Sakamoto, comme dit Yamamoto ici, dont l'étymologie est suffisamment claire. La citation scripturaire donnée ici est, vous voyez, Tameni Jimpen o Arawasu, lui manifestait des prodiges, prodige, Jimpen, étant littéralement changement divin. Vous avez le terme kami, donc le caractère kami, qui est repris dans son sens plein par le poète, donc qui fait allusion au dieu japonais. Et c'est ce caractère jin, donc kami, est la clé du poème. De même donc que tout le poème de Son-en définit la place de Hiyoshi en regard du mont des aigles, de même le poème de Shōen nous redonne la relation entre les deux lieux et les deux dimensions surnaturelles des kami et des bouddhas, sous une forme qui paraîtrait encore une fois parfaitement tautologique si elle n'était énoncée par le détour descriptif des ornements poétiques japonais. Ce poème, en définitive, ne fait rien d'autre que nous redire « Honji Suijaku », en remplaçant chacun des deux éléments de l'expression par une allusion qui les concrétise, « Shakyamuni » et « Sando ». On voit donc combien il résonne profondément avec le premier poème de la rubrique des dieux, le Jingika du Senzaishu, dont on se rappelle le dernier vers, Ato o tanzunete, à la recherche des traces. Le soleil, tout comme la lune, et même plus que celle-ci, peut être symbole du Bouddha. Force est de reconnaître que le thème solaire est incomparablement moins souvent traité par les poètes que le luminaire mineur de la nuit. La cause en est sans doute la nécessité poétique elle-même. Cette dissymétrie, puisque la lune est bien souvent plus souvent chantée dans la poésie généraliste, n'est-ce pas, comme je l'appelle, que la poésie bouddhique. Cette dissymétrie se constate donc dans la poésie japonaise et pas seulement dans les poèmes bouddhiques. Malgré tout, Jien nous en donne une très belle illustration dans son poème, l'un des premiers poèmes de sa centurie. Mukashi omo sayaka nizo miru. Du passé aussi, on a clair vu, car la lumière qui s'oriente vers le soleil levant n'est plus omnubilée, omnubilée au sens étymologique entourée de nuages. Nous avons en quelque sorte deux soleils qui s'éclairent l'un l'autre, le Shakyamuni du passé et celui du présent. Je ne reviens pas au thème du Sutra du Lotus. C'est ce thème solaire que montre aussi le dernier poème sur Hiyoshi, qui reprend l'étymologie du toponyme pour lui redonner toute sa force. Mais on peut penser qu'il s'en tient à la dimension visible et donc divine du symbole. C'est l'œuvre d'un. C'est ce poème-ci. C'est l'œuvre d'un laïc, Nakahara no Moronao, 1131-1197, qui reprend le motif qui nous est familier de la visite impériale à un sanctuaire Shinto. La dotiste nous explique que lors de cette visite, dont le commentateur précise qu'il s'agit de l'empereur Go Shirakawa, la pluie s'interrompit pour laisser place à un ciel dégagé, ce qui fit que le lieu saint méritait bien son nom. Le poème se lit ainsi. Miyuki suru takane no kata ni kumo harete sora ni Hiyoshi no shirushi o zo miru. En direction du haut pic, en l'auguste visite, les nuées se dégagent, et au ciel du bon soleil, Hiyoshi, nous voyons le signe. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises le terme particulièrement chargé de shirushi, shirushi ozo miru, que l'on retrouve aussi bien dans un contexte de kami que de bouddha, avec des nuances inévitables en fonction de la nature de ces deux classes d'entités. Appliqué au bouddha, le terme aura souvent le sens de miracle, de manifestation de pouvoirs extraordinaires, et donc de preuve de l'efficace de la loi bouddhique. Lorsque nous avons la chance de pouvoir le mettre en parallèle à un terme sino-japonais, c'est souvent jinriki ou reigen, ou bien zuiso, n'est-ce pas ? Dans un contexte shinto, on trouvera plus souvent le sens de manifestation de la présence du dieu, sans doute miraculeuse en soi, mais avant tout indice d'un phénomène lumineux plutôt que spectaculaire. Il suffirait de contraster les gigantesques démonstrations des sutras d'un côté et les modestes reflets de la lumière dans l'eau de l'autre pour donner une idée de cette différence. Par exemple, le poème de Jien que nous avons vu tout à l'heure sur le rayon qui sort de, entre les sourcils du Bouddha et illumine l'univers entier est un shidushi typiquement bouddhique. Et vous vous souvenez de ce poème où nous voyons l'eau troublée, le reflet du soleil troublé dans la lumière, dans l'eau où boit le cheval, où s'abreuve le cheval, qui est un shidushi de la présence du Dieu. Le contraste est très important entre les deux. On la retrouve ici, donc, cette différence. Le shidushi n'est rien de plus que le changement de temps. Il fait beau. En retrouvant sa clarté sans nuage, le ciel au-dessus du sanctuaire mérite pleinement son appellation de Hiyoshi, bons auspices du soleil, soleil auspicieux. Nous revoyons donc ici, dans ce dernier des trois poèmes sur Hiyoshi, le caractère présentiel, ainsi que j'ai osé risquer le néologisme récent, qui est la marque distinctive des poèmes purement Shinto. Ce caractère est d'ailleurs étrangement paradoxal, et c'est pourquoi il est préférable de parler de présentiel plutôt que de personnel, car le Dieu se manifeste rarement en tant que personne, et c'est alors presque toujours brièvement, dans un rêve ou au hasard d'une rencontre, parfois par une voix. La présence, si elle est manifeste pour le poète, est presque toujours indirecte. C'est une allusion de présence, de même que le poème signifie cette même présence par allusion. Il faut ici rappeler l'importance du terme « kange » que nous avons déjà vu plusieurs fois et que nous reverrons, le reflet qui définit fort bien la nature de la présence divine. C'est le reflet adouci d'une lumière, « hikari o yawaragu », que le commun des mortels ne peut contempler directement, mais dont il recherche les manifestations dans les moindres perceptions visuelles ou auditives, du moment que le lieu y est propice, comme ici. Que ce signe de présence soit aussi gage de l'efficacité du Dieu à qui s'adresse le fidèle, et puisse donc déboucher, sinon sur un miracle, au sens étymologique de fait spectaculaire, mais du moins sur la réalisation du vœu présenté, nous pouvons le constater dans une suite de poèmes qui apparaît un peu plus tôt dans cette rubrique. Nous commencerons par une pièce qui suit immédiatement la célébration de la porte du déploiement de la pensée. Souvenez le Hoshinmon. C'est l'œuvre du moine Hangen, 1137-1199, religieux du Kofukuji, donc un monastère de l'école Hosso, de l'école idéaliste, noétique, qui a aussi le Sutra du Lotus comme l'un de ses textes fondamentaux, bien qu'il s'appuie sur un tracté, comme vous le savez, mais je n'entre pas dans ces détails. Donc, Hangen a quatre poèmes recueillis dans cette anthologie. La notice indique que celui-ci fut composé à propos de la brume printalière, Kasumi, au sanctuaire de Miwa, à Sakurai, près de Nara, lieu sacré du mont du même nom, Miwa no Yama, dont la divinité est en réalité la montagne elle-même, n'est-ce pas ? Dans le sanctuaire de Miwa, cette particularité de ce que le topos, le lieu même, est la divinité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas représentée dans le sanctuaire. Donc cette divinité, de même que celle de Sumiyoshi avait le pain pour support, était représentée indirectement par les cryptomères Sugi de la montagne. Alors vous allez voir comment ça s'articule dans ce poème, n'est-ce pas ? Sugi gaeo, kasumi komuredo, miwa no yama, kami no shirushi wa kakure zarikeri. Miwa no yama est au centre de... Les branches de cyprès, sugi, n'est-ce pas, cryptomère, cyprès du Japon, bien qu'englouties par la brume. Au mont de Miwa, la présence du Dieu ne sera pas cachée. N'en sera pas cachée. Ici, le signe, la présence du Dieu, est assurée et dépasse les vicissitudes météorologiques. Sous le pinceau d'un moine, ce poème se lit sans peine comme le dépassement du circonstanciel ou du phénoménal, gon, par le réel, jitsu. Le circonstanciel étant ici représenté par la brume qui omnubile le réel. Nous avons une sorte de décalage, de glissement de la dimension du honji suijaku. Les branches de sugi deviennent le réel, la base originelle, et la brume est la trace descendue. Le signe de la présence est toujours là. Il y a un jeu entre kasumi, donc normalement... puisque les branches du sugi sont cachées, c'est le honji qui est caché. Mais le sugi représente en même temps la trace descendue. Et entre vous voyez qu'il y a une sorte de paradoxe, mais le terme du centre, Miwa no Yama, montre que quel que soit le degré d'encryptage, de dissimulation, eh bien le réel, Miwanoyama, le dieu lui-même, qui est le Honji cette fois, est présent. Le poème qui est inspiré juste après vient illustrer l'autre sens, plus proche du miraculeux, mais en tout cas de l'efficace du concept de Shirushi. Œuvre de Taira no Sanishige, qui était actif au milieu du XIIe siècle, il s'agit encore d'une lamentation sur un accident de carrière qui l'empêche d'accéder à la fonction de chancelier, Kurodo, n'est-ce pas ? Après s'être rendu un nombre invraisemblable de fois au sanctuaire de Kamo, vous voyez qu'il dit « Nisen sambyakudo nimo amari, nimo amari keru », n'est-ce pas ? Plus de 2300 fois. Donc, il opte cette fois pour celui de Kifune ou Kibune, dont nous avons déjà parlé, au nord de Kyoto, tout près du Kuramayama, espérant un rendement plus rapide, en quelque sorte. Et voici ce qu'il écrit. « Imamade ni nado shizumuran, Kifunegawa kabakari hayaki kami otanomuni. Pourquoi jusqu'à ce jour dois-je tant sombrer ? Au torrent de Kibune, je m'en remets pourtant à un dieu si rapide. » Shizumu, n'est-ce pas, sombrer, au sens de sombrer dans la carrière. On l'a déjà vu à deux reprises dans les cours précédents. Et cette fois, maintenant, à présent qu'il s'en remet à ce dieu du torrent, donc, puisque tout près de Kibune passe un torrent qui descend de la montagne, l'efficacité devrait être plus rapide. Le dieu semble avoir été piqué par la récrimination et s'être décidé à agir, puisqu'un post-scriptum, vous le voyez ici, « Kakute no chinan » Hodonaku, il fut promu chancelier au temps de l'empereur Konoe, qui est mort en 1155. J'ajouterai un autre poème prolongeant ce thème de l'efficacité divine, celui de Kamo no Shigeyasu, 1119-1191, qui, comme son nom l'indique, était de la famille sacerdotale qui officiait au sanctuaire de Kamo. Très actif dans les cercles poétiques, il fit office de juge dans plusieurs utawase. Venant d'un prêtre Shinto, son poème est d'autant plus intéressant par son contenu. Kimi o inoru, negai o, sora ni mite tamae, wake ikazuchi no, kami naraba, kami. Construction intéressante. Pour le souverain, de prière le ciel daignez remplir, Dieu du tonnerre que vous êtes, soyez Dieu. Pour le souverain, de prière le ciel daignez remplir, Dieu du tonnerre que vous êtes, soyez Dieu. Le dieu de Kamo, Wake Ikazuchi no Mikoto, comme son nom l'indique, est celui du tonnerre, dont le grondement remplit le ciel. De remplir le ciel à remplir un vœu, c'est-à-dire l'exaucer, le pas est vite franchi. Le verbe mitsu se rapporte donc aux deux mots negai et sora. Le mot japonais sora, s'écrivant avec le caractère chinois ku, qui signifie vide, la vacuité bouddhique. Il n'est pas nécessaire que le caractère soit là, d'ailleurs, que le caractère chinois soit là pour que les lecteurs voient « que » derrière « cela », n'est-ce pas ? Je vous le rappelle, ce sont des sortes d'automatismes linguistiques qui se font dans l'esprit des lettrés. Donc, il est facile de penser que la phrase « remplir le ciel » peut aussi se comprendre dans un sens bouddhique, paradoxal à première vue, mais qui relève de la même pensée paradoxale que celle qui faisait intituler « Impermanence » un poème sur l'éternité, « Mujo Tsunenisumu », comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Shunsei. C'est-à-dire que ce qui relève de l'impermanent ou du vide est à la lumière de la vérité ultime, éternelle et réelle. Ajoutons une dernière remarque sur la curieuse construction du dernier vers, où l'on peut voir avec Madame Olinik, dont j'ai parlé la dernière fois, un jeu de mots sur « Kaminari », c'est pas, vous voyez, « Kami naraba, kami naru naraba », ce qui est tout à fait possible et même probable, mais cela n'explique pas la tournure grammaticale elle-même. On peut se demander s'il n'est pas inspiré du chinois classique, de phrases comme celles que l'on a dans les entretiens de Confucius, c'est pas kimi, 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 kimi tari, que le souverain se montre souverain, etc. Nous avons encore ici une manifestation très concrète, le shirushi, qui révèle la proximité du dieu, bien qu'il n'y ait aucun trait personnel qui s'y attache. Après ce détour sur la notion de signe, si important dans ces poèmes, retournons à notre séquence sur le Honji Suijaku. Après les trois poèmes sur Hiyoshi, nous arrivons au grand sanctuaire d'Ise, avec un poème du maître de loi Enyi, qui n'est autre que l'illustre poète Saigyo, 1118-1190, de 4 ans plus jeune que Shunsei, avec qui il avait étudié la poésie et qu'il appréciait au point d'inclure presque 20 poèmes de lui dans son anthologie. La notice en est très intéressante. Elle nous dit que Saigyō, repris de l'envie d'errance, Sumi Ukale Tenochi, après un séjour au mont Koya, c'est le fameux, sans doute lors de ce séjour que se déroule la célèbre anecdote du Senjusho, vous savez, où il essaye de fabriquer une sorte de golem de Frankenstein pour avoir un compagnon de poésie, et ça ne marche pas. J'en ai parlé par ailleurs, et c'est l'une des histoires les plus intéressantes du Senjusho. Donc, après ce séjour au mont Koya, alors qu'il se trouvait dans un temple de montagne sur la baie de Futami, dans la province d'Ise, il composa ce poème en songeant à l'émanation vestigielle, donc le Suijaku, on Suijaku, du Bouddha Dainichi, puisque la montagne près du sanctuaire d'Ise était dite mont de la route du dieu Kamiji-yama. Kamiji-no-yama, Kamiji-yama. Voici ce que dit le poème. Fukaku-idite, Kamiji-no-oku o tazunureba, mata ue monaki, mine no matsukaze. Pénétrant au plus profond des arcanes du chemin du Dieu, en ma quête, il n'y a plus rien au-delà du vent dans les pins sur le pic. Chacun peut comprendre que Kamiji no Oku, renforcé par Fukaku Idite, signifie les arcanes les plus profonds du Shinto. Évidemment, Kamiji, c'est Shinto, Kami no Michi. Pour qui peut y accéder, sa quête débouche sur le but suprême, Ue Monaki, traduisant le sino-japonais mujo ou musho, n'est-ce pas, sono ue nashi, épithète de l'éveil, mais aussi de l'enseignement ultime qu'est le lotus. Le vent dans les pins, matsukaze, qui est aussi le vent d'attente, le vent de l'attente, est une métaphore très répandue de l'enseignement du Bouddha. Je n'en donnerai qu'un exemple tiré encore une fois de Jien, n'est-ce pas, washi no yama, taenaru koe no yukari niwa, kaze fukane domo, mine no matsukaze. Ça sera un peu long d'expliquer pourquoi il y a kaze fukane domo ici, mais vous voyez bien que le vent ne souffle pas. Au mont des aigles, par la grâce de voix merveilleuse, sans même que le vent souffle, bruissement des pins du pic. J'attire simplement votre attention sur la similarité des paroles, sans entrer dans le détail du poème de Jien. On voit que le vent dans les pins du pic, au dernier vers, répond au mont des aigles du premier vers, Washi no yama, mine no matsukaze. Saigyō ne dit pas autre chose. En suivant jusqu'à son terme ultime, la voix des dieux du Japon, on ne peut que déboucher sur l'enseignement suprême du mont des aigles et donc du sutra du lotus. On s'étonnera peut-être de trouver le lotus ainsi évoqué dans un poème qui mentionne explicitement le Bouddha Dainichi en sa notice. Ce qui est normal pour Ise, sanctuaire d'Amaterasu, la déesse solaire assimilée à Mahavairochana. Le bouddhisme de Saigyō était profondément marqué par la dévotion au lotus, ainsi qu'en témoignent les poèmes à thème bouddhique qu'il nous a laissés. Bien qu'il ait pratiqué au mont Koya et pu être considéré comme moine Shingon, il était aussi initié à l'ésotérisme Tendai, au Taimitsu. Sans parler de sa dévotion amidiste, qui se retrouve bien sûr dans le recueil d'anecdotes qui lui sont consacrées, le Senjusho dont je viens de vous parler. Même dans le Tendai exotérique, on sait que la plus haute forme de Shakyamuni n'est autre que Mahavairochana. Je n'entre pas dans les détails scolastiques, mais vous avez dans tous les traités doctrinaux Tendai une graduation, en quelque sorte, des différents degrés ontologiques de Shakyamuni qui se terminent par Mahavairochana. Donc il n'y a nulle contradiction dans ce poème où nous voyons les sentiers de Ise montés au Sutra du Lotus en même temps qu'à la base originelle qui est Dainichi. Nous voyons que ce poème sur le grand solaire, comme disait Bernard Franck, d'Ise, vient comme la conclusion des trois précédents qui célébraient le soleil auspicieux de Hiyoshi, même si la lune y intervenait aussi. Il semble donc assez logique que les deux poèmes suivants soient consacrés à la lune, d'abord comme dieu personnalisé, puis à celle qui nous est plus familière, comme métaphore du Bouddha et de la pensée éveillée. C'est ainsi que le poème de Onakatomi no Tamesada, 1149-1212, est un exemple relativement rare de célébration du dieu Tsukiyomi, qui était lu anciennement Tsukuyomi, Tsukiyomi no Mikoto, frère cadet d'Amaterasu, dont le sanctuaire se trouve non loin de celui de sa sœur Aise. le Daigunsman. Daijingu, Taijingu, enfin c'est écrit ici avec le caractère futoi, n'est-ce pas? Mais vous savez que c'est le caractère dai qui est le plus fréquent. La notice nous explique que le poème fut composé en 1180, alors que la capitale avait été transférée provisoirement à Fukuhara, dans l'actuelle ville de Kobe, en raison des troubles provoqués par la guerre entre les clans des Taira et des Minamoto, et que le poète retournait à Ise pour y prier pour l'empereur. Voici ce poème donc. Tsukiyomi no kamishi terasaba, adagumo no kakaru ukiyomo, harezarameya. Puisque de la lune la divinité nous éclaire, les 20 nuages qui couvrent ce monde sinistre se dissiperont bien. La phrase finale est un négatif exclamatif, n'est-ce pas? Donc on peut le traduire par une forte affirmation. Puisque de la lune la divinité nous éclaire, les 20 nuages qui couvrent ce monde sinistre se dissiperont bien. Vous avez parfois, au lieu de Adagumo, vous avez parfois Adagumo, donc les nuages légers, n'est-ce pas, qui se défont tout de suite. Vous avez parfois Asagumo, nuages du matin, ou les nuages superficiels, selon la façon dont on l'écrit. Adagumo semble préférer de la plupart des éditeurs que j'ai pu consulter. Un post-scriptum nous dit que peu après, les choses se rétablirent. Allusion probable au retour à l'ancienne capitale ordonnée par Taira no Kiyomori au bout de 6 mois. En même temps qu'il complète le cycle de la lune, ce poème, avec son post-scriptum, se présente aussi comme attestation de l'efficace du dieu. Le troisième poème sur la lune est l'œuvre du moine Noren, dont nous savons très peu de choses, et qui ne se trouve représenté ici qu'ici dans ce recueil. Il fut composé, comme le dit la notice, lors d'un concours poétique sur le thème de la lune au-dessus du sanctuaire, Château no Tsuki, à Iwashimizu no Yashiro, au sanctuaire de Iwashimizu. La lune au-dessus du sanctuaire, dont on avait déjà vu précédemment un exemple, vous vous souvenez de ce même thème, traité à Sumiyoshi. Il s'agit, nous l'avons vu, d'un motif idéal pour développer l'idée de la base originelle et des traces descendues, de l'originel et du vestigiel. Le lieu est cette fois le sanctuaire de Iwashimizu, non loin de Kyoto, consacré à Hachima. Donc, voici le poème. En japonais d'abord, Iwashimizu, Kiyoki Nagare no, Taeseneba, Yadorutsuki Sae, Kumanakarikeri. Iwashimizu, Kiyoki Nagare no, Taeseneba, Yadorutsuki Sae, Kumanakarikeri. A Iwashimizu, puisque jamais ne s'interrompt le cours d'eau limpide, la lune aussi qui s'y abrite est parfaite en sa clarté. Nous avons vu plus haut le verbe « yadosu », la forme transitive de « yadoru », dans presque exactement le même contexte. Presque, car l'effet d'optique était inversé. Nous avions la lune pure du mont des aigles, dont le reflet prenait demeure au promontoire de Karasaki. Ici, c'est le reflet lui-même qui est au centre du poème. Si ce reflet même, sae, n'est-ce pas, tsuki sae, se montre en une perfection qui implique aussi son universalité, Kumanashi, qui veut dire Kumanashi signifie littéralement sans coin, sans angle, c'est-à-dire que c'est parfaitement rond, parfaitement pur. C'est parce que l'eau éternelle de la divinité est elle-même parfaitement pure. Il y a donc réciprocité de perfection. Le Honjisui-jaku est possible parce que les dieux du Japon sont dignes en leur pureté de la perfection bouddhique. Il s'agit certes d'une conclusion à tout ce qui précède, qui était frappée du sceau dès le premier poème, de la relation originelle vestigielle, Honji Suijaku. Et c'est une conclusion très appropriée. Si la rubrique des dieux s'arrêtait là, nous serions très satisfaits de cette satisfaction qui résulte de la contemplation d'une belle structure, logiquement conçue. Mais justement, ce n'est pas le cas. Et nous avons ensuite, après ce poème, qui aurait été une si belle conclusion à une rubrique des dieux entièrement placée dans la lumière des Bouddhas, une série de 8 poèmes, tous consacrés à la cérémonie du Daijōsai, ou grande fête des prémices, qui n'a lieu qu'une fois par règne lors du premier Ninamesai ou Shinshōsai, célébré par le nouveau souverain au 11e mois. Donc, lorsqu'un nouvel empereur est intronisé, en quelque sorte, bien qu'il n'y ait pas de trône, le premier Shinshōsai qu'il fait est appelé le Daijōsai. Cette fête est éminemment consacrée aux dieux du ciel et de la terre, puisque le souverain leur offre les prémices des moissons après les avoir lui-même goûtées. Shunzei a ici rassemblé 8 poèmes célébrant le Daijōsai de 8 empereurs différents, de Go-Suzaku en 1036 à Gotoba en 1184. Je me réfère ici à la chronologie donnée par le professeur Kamijo Akiji. Il est évident que le compilateur fait ainsi dans la dimension temporelle ce qu'il a fait plutôt dans la dimension spatiale, à savoir une liste symboliquement exhaustive, ici des sanctuaires, là des empereurs. Mais alors que les sanctuaires et leurs divinités étaient savamment insérés dans la structure théologique, si l'on peut dire, ou bouddhologique du Honji Suijaku, ici, nous nous retrouvons dans l'atmosphère épurée des premiers poèmes sur les dieux que nous avons rencontrés dès le Kokinshu. Vous vous souvenez des débuts de ce cours. À moins de se livrer à des contorsions exégétiques pour lesquelles je ne pense pas avoir la souplesse nécessaire, nous ne trouvons dans ces 8 pièces aucune allusion au bouddhisme. Non seulement aucune allusion manifeste, pour qui a une certaine expérience de la lecture de chaque kyoka, mais rien non plus qui pourrait offrir prise à un examen plus approfondi. Une telle pureté rituelle dans 8 poèmes de suite ne peut être le fruit du hasard. Nous retrouvons dans ces pièces toute l'ornementation des kami asobi no uta et des kagura uta, les feuilles de sakaki et les banderoles sacrées, les yu, n'est-ce pas, les gohei, nusa, les souhaits de longévité de 1000 ans et 10 000 règnes, les prières aux dieux pour le souverain. Le moine versé dans les doctrines du Tendai qui était Shunzei s'est donc ici volontairement abstenu de toute interférence bouddhique. Dans cette ultime partie de la rubrique des dieux, il leur a laissé toute la qualité originelle du genre, une naïveté dénoncée, mêlée à un optimisme invétéré, relevée dans la mesure du possible pour ce qui est de la poésie japonaise, d'univocité dans l'usage du vocabulaire. C'est-à-dire que vous n'avez pratiquement pas de jeu de mots, en tout cas pas de jeu de mots significatifs. Nous ne donnerons qu'un exemple, car les huit pièces sont d'une grande unité de ton, et nous prendrons la dernière qui les résume toutes. Elle est du conseiller Fujiwara no Mitsunori, composée pour le Daijōsai de l'empereur Gotoba en 1184. Elle célèbre le mont des 1000 ans, Chitoseyama, dans la province de Tamba, à l'ouest de Kyoto. C'est Tango no Kuni. La notice nous dit qu'il s'agit d'un chant de la partie ouest. Vous avez Suki no Kata, vous avez donc Suki no Kata et Yuki no Kata, les deux. Pour le Daijōsai, vous aviez les terrains, les champs dont étaient tirées ces prémices, étaient divisés en deux parties, ouest et ouest, qui étaient changés à chaque cérémonie, n'est-ce pas, et qui étaient représentés. Je vous ai déjà parlé de cet amour des Japonais pour les sortes de concours symétriques, n'est-ce pas ? Et donc chacune des deux catégories de chants faisait des poèmes. Alors le voici, il est très simple. Chitoseyama, kami no yo saseru, sakaki bano, sakae masaru wa kimi ga tame toka. Chitoseyama, kami no yo saseru. Sakakibano, Sakae Masaru wa Kimi ga tame toka. Alors, il y a un jeu de mots, comme vous le voyez bien. Kami no yo saseru, kami no yo, yo avec le caractère de Sedai, n'est-ce pas ? Ou yo saseru, c'est-à-dire, donc, je vais d'abord vous le traduire. Au monde des 1000 ans, les feuilles de Sakaki, où viennent les dieux, qu'elles aillent toujours prospérant pour notre Seigneur. Alors, kami no yo saseru, les feuilles de Sakaki, où descendent les dieux, donc c'est le verbe yoru à l'honorifique, n'est-ce pas, pour les dieux, ou bien kami no yo ni saseru, qui ont été fichés, n'est-ce pas, à l'époque des dieux, à l'âge des dieux, un renvoi à l'âge des dieux. Mais vous voyez qu'en tout cas, le jeu de mots qui est assez simple ne renvoie qu'à l'intérieur du Shinto. Il n'y a pas d'allusion bouddhique derrière. Nous voyons donc que ce dernier poème du recueil contient comme toponyme l'expression milanais, Chitoseyama, donc le monde des mille ans, qui est le titre de toute l'anthologie. Nouvel indice du soin qu'a pris le compilateur à l'organiser en un tout cohérent, où le lecteur retrouve de loin en loin les repères qui le guident. Je dirais presque que cette série de 8 poèmes est rassurante, parce qu'on n'y trouve absolument aucune allusion bouddhique, ce qui montre bien que les allusions bouddhiques que nous trouvons à foison par ailleurs ne sont pas une invention ni des commentateurs, ni du lecteur, ni de moi-même, n'est-ce pas ? Elles sont présentes. Ici, dans ces 8 poèmes, on ne peut rien en faire du point de vue du Honji Suijaku. J'essaierai de tirer à la fin une conclusion de cette purification shintoïque opérée par un moine. Avant de tenter de tirer quelques conclusions de cette rubrique des dieux, nous nous devons de nous faire une idée de celle qui la précède, la rubrique du bouddhisme. Puisque nous avons vu que la disposition même des poèmes à l'intérieur du recueil est significative, il importe de savoir sur quoi s'appuyaient les dieux du Japon, dont nous avons vu qu'ils étaient mis dès le premier poème de la rubrique dans la perspective originelle vestigielle. Le livre 19, donc l'avant-dernier livre, consacré au Shakyoka, comprend 54 poèmes, contre 33 pour la rubrique des dieux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes dans une toute autre dimension. Il est d'ailleurs très intéressant de remonter ainsi des dieux au Bouddha, à rebours de l'ordre voulu par le compilateur. Cela nous aidera peut-être à mieux apprécier la rupture entre les deux plans. La première remarque, si nous comparons cette rubrique bouddhique à celle du Goshu Ishu, qui avait, vous vous souvenez, une double rubrique des dieux et une rubrique bouddhique dans un même livre, c'est qu'elle est beaucoup plus savante que celle qui la précédait, sans doute à cause du plus grand nombre de poèmes inclus, qui oblige à une classification plus rigoureuse. On croit discerner une certaine progression. C'est quand même difficile, et vous allez le voir. Et il y a certainement lieu de tenter de la définir plus exactement. J'ai été très intéressé par la tentative de mon collègue américain Stephen Miller, lors de ce colloque sur les Shakyoka, de faire correspondre ses poèmes aux 10 livres de la Somme de Contemplation, au Makashika, de Tendai Daishi, du moine chinois Chigi, du VIe siècle, en même temps qu'aux 5 périodes de la prédication du Bouddha, les Goji, les 5 périodes en lesquelles sont divisés les 50 ans de la vie de Shakyamuni, de 30 ans à 80 ans, lorsqu'il a réalisé l'éveil et prêché l'ensemble de sa doctrine. Je ne reviens pas là-dessus, vous savez que le Tendai en particulier, repris par la plupart des penseurs japonais jusqu'à l'époque de Meiji, classé en quelque sorte le canon bouddhique selon cette quintuple classification et catégorisation des sutras, qui finissait bien sûr par le sutra du lotus et le sutra du Mahaparinirvana. En tout cas, ce second point ne me semble pas assuré, et il y a lieu de poursuivre l'enquête à ce sujet. Mais il est sûr, bien sûr, que la somme du Makashikan, la somme de contemplation, est à l'arrière-plan de tout ce qu'ont écrit les moines de Heian. Il semble cependant peu douteux que la rubrique ne commence par une constatation de l'inconsistance et de l'inconstance du monde, et en particulier du corps. Avec ce rappel des 10 comparaisons du sutra du Vimalakirti, le Yuimagyo. Yuimagyo, Juyu, les 10 comparaisons. Alors je ne vais pas entrer. Il y a plus de 10 comparaisons dans le sutra du Vimalakirti. Et la liste est tout à fait flottante. Nous n'allons donner ici que les principales, puisque ce sont celles auxquelles on va faire allusion. Dont deux images sont d'abord retenues, celle de l'écume dans le courant, puis du nuage flottant dans le ciel. Les deux poèmes sont de Fujiwara Kinto, 966-1041, illustre poète, que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. Voici le premier. Koko ni kie, kashiko ni musubu, mizu no awa, ukiyo ni meguru, mi ni koso arike. Ici, elle se défait, et là, elle se reforme. Écume d'eau qui parcourt le monde flottant. Voilà ce qu'était le corps. Cette forme passée indique que celui qui fait le poème est à la fin de sa vie. Il s'aperçoit de l'impermanence, de la caducité, de l'inconstance de son corps. Le quatrième vers, Ukiyo ne meguru, donc qui parcourt le monde flottant, évoque bien sûr le cycle des morts, Shoji rinne, et le cycle des morts et des renaissances dans lequel est emporté l'individu. On n'oubliera pas que le mot pour corps est plus général que ce qu'implique sa traduction française. On pourrait presque le rendre par individu, ou voire la personne. Il consiste en la concrétisation de l'acte, go, le karma, dans l'existence présente. Il n'est donc pas séparé de shin, kokoro, où il l'est par la représentation que l'on en a. Il s'agit de la première étape de la prise de conscience. Le second poème de Kinto développe la comparaison du nuage. Sadamenaki, miwa okigumoni, yosoetsu, hate wa sore nizo, nari hate nubeki. Jamais fixé, le corps à un nuage flottant se compare. Et à son terme, comme lui, il finira. On voit que ces poèmes appartiennent à la catégorie la plus simple des shakkyoka, qui ne font qu'adapter en japonais la lettre du sutra, sans même apporter ou très peu d'ornement poétique. Chose curieuse, on retrouve 20 poèmes plus loin, une autre pièce consacrée encore à l'une des 10 comparaisons de Vimalakirti. Cette fois, celle de la lune dans l'eau, Shuichu Gatsu. La plupart des japonais actuels diront Shuichu Getsu, mais il faut dire bien sûr en lecture Gon plutôt que Kan. Donc Shuichu, ça serait plutôt Shuichu Gatsu ou Shuichu Gatsu. Dû à Fujiwara no Naganori, 1100-1180, fils d'un docteur S-lettre et qui fut lui-même fin lettré. Mais son poème n'est guère qu'une redite un peu plus élaborée dans la comparaison. Sumeba miyu, nigoreba kakuru, sadame naki, konomiya, mizuni, yadoru, tsukikage. Sumeba miyu, nigoreba kakuru, sadame naki, konomiya, mizuni, yadoru, tsukikage. Vous voyez encore tsukikage, n'est-ce pas? Et yadoru. Limpide, on la voit. Troublée, elle disparaît. Jamais fixée, notre corps est dans l'eau, le reflet de la lune. Il est cependant intéressant de remarquer que ce poème vient après un autre, qui est consacré à un terme bien plus délicat, le gochinyorai. Vous le voyez dans la notice, gochinyorai o yomi haberikeru ni, byodo shochi no kokoro o yomi haberikeru. C'est-à-dire, compris soit comme un Bouddha, l'ainsi venu, Nyorai, n'est-ce pas, le Tathagata, muni des 5 sagesses, c'est-à-dire Mahavairochana, soit comme un groupe de 5 ainsi venus, de 5 Nyorai, entourant ce même Dainichi, et représentant chacun l'une des 5 sagesses. Ainsi que nous le dit la notice, il s'agit ici de la sagesse d'éveillée, la sagesse d'égalité, Byodo Shochi, décrite en ces termes par Fujiwara no Kanezane, qui n'est autre que le frère de Jien, ce qui est très important, et qui était ici appelé par son titre de régent et d'ex-ministre de la droite. C'est Shosaki Udaiji. Shitogoto ni kawaru wa yume no madoi ni te, samureba onaji kokoro narikeri. Quand chaque homme y change, c'est du rêve l'égarement. Une fois éveillé, c'est un même cœur que l'on trouve. Nous avons ici un exemple de poème à thème bouddhique différent de ceux que nous venons de voir, qui étaient purement tautologiques. Il s'agit ici d'une exégèse du terme de sagesse d'égalité. Exégèse certes simple, mais parlante. L'homme plongé dans l'ignorance s'imagine que la pensée des autres hommes, soumise au désir, est différente pour chacun. Mais une fois arrivé à la compréhension que lui ouvre l'éveil, il saisit qu'il n'y a qu'une unique pensée, qui se nuance et prend un aspect différent selon les récepteurs individuels ballottés par les passions. On ne peut qu'être frappé à la lecture de ce poème par la similarité de pensée avec un autre qui avait composé son illustre frère sur l'incité d'aspect, Nyoseso, du Sutra du Lotus. Le voici, n'est-ce pas ? Yoshinoyama, Kamika Hanakato Nagamekemu, Yosome wa onaji kokoro narikeri. Aux collines de Yoshino, on aura pu contempler des nuages ou des fleurs. Dans la diversité des regards, c'est un cœur identique. Je ne reviens pas. Vous savez, Yoshino, les cerisiers de Yoshino sont si blancs et couvrent la colline de telle façon qu'on ne sait pas si ce sont des nuages ou des fleurs, ou bien la neige ou des fleurs. Mais la conclusion de Jien, c'est le Yosome veut dire ici les regards divers. Vous avez un cœur derrière qui est le même. Donc la réalité, ce sont les cerisiers de Yoshino. où l'on retrouve exactement l'expression, comme chez son frère, de ce que je voudrais appeler les doctrines nouménales, pas au sens kantien bien sûr, ou noétiques du rien que penser, le Yuishin. On voit que ce poème du rien que penser est suivi d'un poème qui semble, sinon le contredire, du moins montrer ce qu'il advient de cette même pensée dans le monde phénoménal. Le lien de parenté des deux poètes n'a manifestement pas échappé au compilateur non plus, qui fait suivre le poème de Kanezane par une pièce de son frère Jien, précédée d'une longue notice où il est fait état de troubles au mont Hiei survenus en 1178, alors que Jien avait 23 ans, 24 ans selon la façon japonaise de compter l'âge. Troubles qui avaient provoqué la dispersion des novices, au moment où Jien allait venir au terme d'une retraite de 1000 jours. Sennichi komoriite. Ce qui le remplit d'inquiétude, lui, Jien, pour la tradition héritée de Saicho. Shijiri no ato. Shijiri, ici, c'est Saicho. Par un matin enneigé, il envoie au maître de loi Son-en ce poème. Alors, ça va peut-être vous faire sursauter. Son-en, c'est le même caractère, mais ce n'est pas le Son-en que nous avons vu l'an dernier qui arrive 150 ans plus tard, n'est-ce pas ? C'est un compagnon de pratique de Jien à l'époque, qui était, semble-t-il, plus âgé que lui. On sait très peu de choses sur lui, mais ce n'est pas le Son-en connu. Et voici ce poème. Itodoshiku, mukashi no ato ya taenam to, omou mokanashi, kesa no shirayuki. C'est imminent. Itodoshiku. C'est imminent. Les traces du passé vont disparaître. Quelle tristesse d'y penser sur la pure neige du matin. La trace des maîtres anciens, mukashi no ato, la tradition du mont Hiei va disparaître sous la neige laïque qui effacera tout. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots avec Kesa, n'est-ce pas ? Kesa no Shirayuki. Kesa, on le connaît aussi par d'autres jeux de mots, par d'autres poèmes où se retrouve le même jeu de mots. Ça veut dire ce matin, Konohasa, mais ça veut dire aussi, ça désigne aussi le vêtement sacerdotal, la kesha en sanskrit, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le vêtement bouddhique. Donc, et qui est noir, n'est-ce pas, traditionnellement. On l'appelle aussi kurozome godomo, le vêtement teint en noir. Et vous voyez que le kesa noir et la neige blanche, il y a la neige blanche recouvrant le kesa, vous avez toute une autre dimension entre... Puisque vous avez aussi très, 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 très couramment le fait, par exemple, shiraginu, le vêtement, la soie blanche ou le vêtement blanc, désigne aussi les laïcs, zokujin, n'est-ce pas. Donc, il y a un jeu de mots beaucoup plus élaboré dans ce poème qu'on le voit à première vue, mais le sens est bien là. Au-delà de l'anecdote... Alors, il s'inquiète de cela, et nous avons la réponse Kaeshi, n'est-ce pas ? Kaeshi no uta de Son-en, qui est très gentille. Kimi ga nazo, nao arawane. Furuyuki ni mukashi no ato wa uzumorenu tomo. Mais votre renom s'illustrera encore. Awaren, n'est-ce pas ? Quand bien même la neige du passé les traces aura enterrées. C'est parfaitement clair. Mais au-delà de l'anecdote, l'intérêt de cet échange poétique, vous l'aurez peut-être pressenti, d'après tout ce que nous avons dit, se trouve dans l'usage du mot central « ato », la trace, ici clairement pris dans le sens de tradition, de voix des anciens. C'eût été le moment ou jamais de faire une référence plus ou moins explicite aux traces descendues. N'est-ce pas, ato taru, par exemple, pour sauver cette tradition. Mais il est évident que la rubrique où inséré le poème, donc les shakkyoka, empêche d'y faire allusion, justement. Nous ne trouvons pas plus d'évocation du Honji Suijaku dans la rubrique Shakkyo que dans les 8 derniers poèmes de la rubrique des dieux. Cela nous donne une indication certaine sur les contraintes doctrinales que s'est imposée Shunzei dans ses choix. Nous ne pouvons bien sûr voir ici tous les poèmes de cette rubrique. Je voudrais quand même vous en citer un quatrième, portant sur les 10 comparaisons de Vimalakirti. Cette fois séparé par 10 poèmes du précédent, comme si Shunzi avait voulu en ponctuer régulièrement cette partie. Celui-ci est dû à Fujiwara no Suketaka, dont on sait seulement qu'il entra dans la vie religieuse en 1179 et participa à plusieurs concours poétiques. La notice nous dit qu'il porte sur la comparaison avec le rêve, n'est-ce pas ? Yume no gotoshi to ieru kokoro yomeru. Miru hodo wa, yume mo yume tomo shirare neba, utsusu mo ima wa utsusu tomo waji. Les réminiscences avec Chuang-Zi, etc., sont manifestes, mais, et c'est un poème assez délicat à traduire. Tant qu'on le voit, du rêve on ne sait que c'est un rêve. De notre monde présent aussi, on ne pensera qu'il est réel. Mais évidemment, même si on pensait que c'est... Otsutsu mo imawa, otsutsu tomo waji, on ne peut penser à présent, dans le présent que nous vivons, que nous croyons de la réalité, qu'il est réel. Même si nous pensons que c'est le monde réel, vous voyez, il y a, c'est très imbriqué, même si nous pensons que le monde réel, ça n'aura pas plus de portée, de portée dans, cognitive que si l'on parlait du rêve dans un rêve. Évidemment, c'est l'allusion à Chuang-Zi est évidente, n'est-ce pas ? On ne sait si Chuang-Zi est le papillon, mais c'est un thème qui est très fréquemment repris dans la poésie, même non bouddhique. Mais ici, on voit bien l'application aux deux dimensions, puisque le utsutsu du phénoménal, le utsutsu phénoménal n'est pas plus réel que le rêve. Un grand nombre de poèmes de cette rubrique sont consacrés à des sutras, à des passages scripturaires et à des doctrines. Les sutras sont le lotus, bien sûr, et en majorité d'ailleurs, avec l'esquisse d'un classement par chapitre. Nous avons au moins 15 poèmes consacrés au sutra du lotus, dont certains suivent l'ordre des chapitres. Mais aussi l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, le sutra du cœur, le Hanyashingyo, la Prajnaparamita, enfin les Hanyagyo, mais sans doute ici le grand sutra de la Prajnaparamita, le sutra de l'extinction, le Nehangyo, le sutra d'Amida, Amidakyo. Nous remarquerons aussi le très petit nombre de Uttamakura, de toponymes poétiques, qui contrastent de façon presque étonnante avec la rubrique des dieux, bien que plusieurs poèmes soient faits à l'occasion de visites de temples. J'attirerai l'attention sur le seul qui soit, au sens propre, enraciné, vous allez voir, dans le seul japonais. C'est celui d'un important moine poète, Jakuden, 1139-1202, neveu puis fils adoptif de Shunzi. Vous voyez que nous sommes toujours dans la proximité du compilateur, qui fit partie du cercle poétique où évoluaient les Yoshitsune, les Teika, Jien, etc. Donc, les deux grands écrivains de chaque Kyoka aussi. Ce poème est fait à l'occasion d'un pèlerinage au mont Koya, au Koya-san, comme vous le voyez. Akatsuki o Takano no yama ni matsu hodo ya Koke no shita ni mo Ariake no tsuki. L'aurore au mont des hautes plaines, Takano no yama, c'est évidemment Koya no yama, donc l'aurore au mont des hautes plaines, tandis que je l'attends, sous la mousse aussi, la lune du point du jour. Tous les commentateurs s'accordent à voir en ce poème l'allusion, c'est pas la Koke no shita, sous la mousse du tombeau, à l'entrée en samadhi du moine Kukai, le Nyūjō, avec qui le poète attend la venue au monde du futur Bouddha Maitreya, le Miroku Bosatsu. L'idée selon laquelle Kukai n'est pas mort en 835, mais est entré le corps intact en concentration, ce qu'on appelle Nyūjō Rushin, n'est-ce pas, Jō ni irite Mio Todomeru, n'est-ce pas, gardant le corps, d'où il sortira à la venue de Miroku, est étroitement lié à celle de la réalisation de l'état de Bouddha des ce corps, Sokushin Jōbutsu. Donc vous voyez que le poète ici, Akatsuki Omatsu, il attend l'aurore, c'est-à-dire la venue de Maitreya, et en même temps, il y a le Ariake no Tsuki, vous savez que c'est la lune subsistante, que l'on voit au matin. Et donc la lune s'est couchée en principe, la nuit, elle s'est couchée pendant la nuit, mais elle subsiste comme une sorte d'image résiduelle, enfin pour le poète, n'est-ce pas, puisque je ne parle pas du phénomène astronomique, mais pour le poète, c'est une image résiduelle pendant le jour, et quelle est ici ce Adi Akenotsuki, c'est évidemment Kukai qui n'est pas mort, qui est en samadhi, qui est près de lui, qui est au même endroit et qui attend comme lui la venue de Maitreya. D'où, au moment où il sortira alors de sa concentration. Donc, cette idée du Sokushin Jōbutsu, idée très importante dans le Mikkyo, l'ésotérisme japonais, c'est-à-dire la réalisation de l'état du Bouddha en ce corps, dès ce corps, a aussi donné l'occasion d'un autre poème, dans cette même rubrique, l'œuvre de Norinaga, qui est sans doute 1109-1180, on n'est pas sûr de la date de sa mort. Un Fujiwara entré en religion est connu sous l'appellation de Koya Nyudo, donc le religieux du mont Koya. Donc la définition de Sokushin Jōbutsu. Terutsuki no kokoro no mizu ni suminureba, yagate kono mi ni hikari ozo sasu. Si la lune brillant en l'eau du cœur se fait pure, aussitôt en ce corps la lumière resplendira. Remarquez comment le quatrième vers, yagate kono mi, traduit exactement Sokushin, n'est-ce pas ? C'est la lecture japonaise de Sokushin, donc aussitôt en ce corps. Et c'est la seule allusion précise au seul japonais, au mont Koya, n'est-ce pas ? Reste entièrement à l'intérieur de la doctrine bouddhique et ne s'ouvre aucunement vers les traces descendues. Bien au contraire, elle est tournée vers la venue de Maitreya. Koke no shita, c'est vraiment, on ne peut plus enraciner, n'est-ce pas ? La mousse du mont Koya, et il n'y a aucune allusion au dieu. C'est bouddhico-bouddhique, en quelque sorte. C'est Maitreya et Kukai, et pas Maitreya et un dieu, Kukai et un dieu. Après avoir remarqué en passant que l'avant-dernier poème de la rubrique est consacré aux reliques, alors qu'on se souvient que dans le Goshu Ishu, c'était par là que l'on commençait. Bon, je n'aurai pas le temps de développer là-dessus, j'espère y revenir un peu plus tard. Il est important de s'arrêter au dernier poème, puisque c'est celui qui annonce, pour ainsi dire, la rubrique des dieux qui va suivre. Œuvre du moine Yōkan, 1033-1111, qu'on peut lire aussi Eikan, c'est comme tout à l'heure pour Shōken et Seiken, n'est-ce pas ? Issu d'une famille de Liwashimizu, il devint moine zen. Mais ainsi que nous allons le voir, il fut aussi, comme presque tous les esprits religieux de l'époque, profondément marqué par l'aminisme. Une notice nous indique que le poème fut composé comme chant de prédication. Alors, Kyōke no Uta, on lirait le plus souvent Kyōke no Uta, mais souvent dans le Jodo Shinshu, on le lit Kyōka, Kyōka no Uta. Donc, c'est un chant pour la conversion, l'enseignement. La conversion par l'enseignement, pour un livret liturgique, shiki, d'une cérémonie dite de renaissance en terre pure, Ojo no Ko, littéralement conférence des renaissances, c'est-à-dire pour guider les êtres vers la terre pure. Voici ce poème. Minabito wo watasam to omou kokoro koso, gokuraku ni yuku shirube narikere. Minabito wo watasan to omou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Sutra du Lotus, la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, vous aviez exactement la même expression. Shujo watasan. Donc, pour tous les êtres, le salut médité, un tel cœur pour sûr est vers la félicité le meilleur guide. Remarquez le terme sino-japonais qui fait de ce poème un indéniable shakkyoka, gokuraku. Ça choque toujours de voir un terme sino-japonais dans un waka. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces termes sino-japonais sont plus nombreux dans les poèmes qui sont plus spécialement liturgiques, comme c'est le cas ici. Mais avant tout, le seul lien que l'on puisse faire avec ce qui suit, c'est-à-dire la rubrique des dieux, est pour tous les êtres le salut médité. Minabito watasan tomo, qui débouche sur l'idée de l'expédient salvifique, dont font partie le Honji Suijaku et les poèmes aussi. Mais convenons que c'est peu. Si on regarde l'ensemble de cette série, on se rend compte que l'aspect noétique, le Yuishin, y joue un rôle prédominant, ainsi que nous l'avons vu dans les quelques poèmes traduits ici. Le mot de Kokoro est d'ailleurs au centre du tout dernier poème, comme les deux premiers étaient consacrés au corps, Mi, ce qui nous donne l'esquisse d'une évolution ascendante, dont les détails restent à définir. Au terme de ces trois cours sur la rubrique des dieux du Senzaishu, Nous avons vu comment s'est opérée la mainmise bouddhique, si je puis dire, sur une catégorie de poèmes qui, à première vue, et selon la tradition ancienne, en était le plus éloigné. En plaçant cette rubrique après le bouddhisme, essentiellement présentée sous sa forme idéaliste, centrée sur le cœur au sens large de pensée, le compilateur présente les dieux comme les interlocuteurs les plus disponibles des êtres humains, ceux qui les guident à travers les vicissitudes du monde vers les terres de la contemplation. On doit cependant reconnaître qu'en ménageant en toute dernière partie une série de poèmes, pour ainsi dire immaculés, de toute trace du bouddhisme, le moine poète Kesunze sacrifie la tradition primordiale et retrouve ainsi le pacte entre dieu Shinto et Bouddha, où l'on se défend de faire toute référence explicite au bouddhisme au sein des plus sacrés sanctuaires. Donc ces huit poèmes au Daijosai reflètent cette idée bien connue que nous avons déjà vue plusieurs fois, par exemple dans le Shasekishu, dans les sanctuaires. C'est à la suite d'un pacte entre dieux et Bouddha que l'on ne parle pas du bouddhisme dans les sanctuaires. Et il me semble que ces huit derniers poèmes sont la concrétisation de ce pacte. Voilà, nous en avons fini aujourd'hui avec le Senzai-shu, et je vous remercie de votre attention et de votre courage.